Africa Radio, BBC Afrique, présenté par Francis Laloupo. Le débat.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du débat BBC Afrique, Africa Radio. Une fois encore, merci de votre fidélité à ce rendez-vous de l'actualité sur nos deux radios partenaires. Deux grands sujets au sommet de cette édition. D'abord la crise sécuritaire dans le Sahel où la multiplication et l'intensification des attaques de groupes armés non étatiques ne cessent de souligner les limites des moyens engagés par les États pour faire reculer le péril terroriste. Les réponses régionales actuelles sont-elles adaptées à la nature de ces nouvelles formes de violence? Nous en parlons dans cette édition avec nos invités. Autre sujet, le Bénin. Le Bénin qui vient d'inventer une nouvelle forme de rupture démocratique avec l'installation ce 16 mai des députés de la nouvelle assemblée issue des législatives du 28 avril dernier. Des élections où seules étaient proposées au choix des électeurs deux partis de la mouvance présidentielle. Quels seront les lendemains de cette assemblée dans un pays en proie à la plus grave crise politique depuis l'instauration de son système démocratique en 1990. Explication avec nos invités dans cette édition du débat BBC Afrique, Africa Radio. Notre grand témoin, invité dans cette édition, dans le studio BBC Afrique à Dakar, Alioumtine. Alioumtine, bonjour.
Bonjour.
Alioumtine, expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits humains au Mali. Et notre confrère invité dans cette édition au téléphone depuis Cotonou, Aboubacar Takou. Bonjour Aboubacar Takou.
Bonjour chers confrères et bonjour à tous les auditeurs.
Aboubacar Takou, directeur de la publication du quotidien Le Béninois Libéré. Petite fiche de présentation comme de coutume de notre témoin, notre grand témoin invité Alioumtine, des études universitaires à l'Université Lyon 2, sanctionné en 1981 par une thèse de doctorat de linguistique et sémiologie de la communication et des textes. Vous avez enseigné la littérature africaine et la grammaire française à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar de 1981 à 2010. Entre-temps, en 2001, vous avez assuré le rôle de coordonnateur pour l'Afrique de la Conférence mondiale contre le racisme à Dublin. Secrétaire général, puis président de la RADO, la Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, de 1998 à 2012. Vous allez ensuite présider le Comité sénégalais des droits de l'homme de 2013 à 2015, avant d'occuper de 2015 à 2018 le poste de directeur régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Auteur de plusieurs ouvrages et articles sur la littérature, la politique et les droits humains, vous êtes par ailleurs le fondateur du think tank Africa Germ Center, ayant pour devise, je cite, « L'Afrique de demain se construit aujourd'hui ». Depuis mars 2018, vous exercez donc les fonctions d'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits humains au Mali. Alioumtine, vous serez notre grand témoin dans cette édition de débat BBC Afrique, Africa Radio. Crise sécuritaire dans le Sahel, premier sujet de cette édition, et la réponse des États à cette crise dans le Sahel. Il ne se passe plus de semaine où l'on ne signale dans la région du Sahel des attaques de groupes armés contre des civils et des militaires. 6 personnes, dont un prêtre, tué dimanche dernier lors d'une attaque contre une église à Dablo dans le nord du Burkina Faso. C'était la deuxième attaque du genre en 2 mois dans une église dans le pays. Lundi, cette fois, au Mali, 12 personnes tuées, 4 autres grièvement blessées, dont 2 enfants et plusieurs têtes de bétail emportées. Cela s'est passé dans le Amopel de Erema Kono, dans la région de Ségou, au Mali. L'attaque a été menée par des hommes armés, non identifiés, déguisés en chasseurs traditionnels. Mardi dernier, 28 soldats ont été tués dans la région de Tillabéri, dans l'ouest du Niger, victimes d'une attaque menée par un groupe d'assaillants. Et ce jeudi, d'autres soldats maliens, cette fois, ont trouvé la mort dans une nouvelle attaque. Alioumtine, alors, on pourrait prolonger la liste comme ça indéfiniment. On n'a plus affaire, là, je dirais, à des événements sporadiques. Quelle réflexion générale vous inspire cette intensification des actions violentes dans la région?
Écoutez, nous sommes très fortement préoccupés par la dégradation de la situation sécuritaire et puis la vitesse avec laquelle la propagation se fait dans la région. Il y a une espèce d'accélération depuis quelque temps, très inquiétante, et effectivement, qui montre effectivement que nous avons des failles dans les réponses. Les gens parlent de réponses régionales. Est-ce qu'il y a une réponse régionale? Je pense que c'est la première des questions. Mmh. Aujourd'hui, le problème, c'est un problème régional. Mmh. Mais de mon point de vue, il n'y a pas encore une véritable réponse régionale, coordonnée, pensée. Et il me semble que cette faille, il faut très rapidement trouvé des solutions. Ça fait quand même depuis les événements d'Ogassagou que nous appelons en tant qu'experts indépendants des Nations Unies un sommet pour se pencher sur cette question.
Vous voulez dire que pour l'instant, chaque État s'occupe de son territoire, c'est ça ?
J'ai comme l'impression qu'il y a le G5 Sahel qui est là, qui fonctionne. Il y a la MINUSMA qui fonctionne.
Au Mali.
Mais tout de même au Mali. Mais de mon point de vue, il y a aussi à la CEDEAO, nous avons un mécanisme d'alerte qui fonctionne assez bien, qui est bien organisé. Mais tout de même, nous voyons que ce qui s'est passé à Ogassagou, on se dit, mais tiens, comment ça se fait que les gens puissent partir, faire ce qu'ils ont fait, quand même avec les atrocités auxquelles on a assisté, des crimes vraiment décrits comme des crimes de l'humanité, contre l'humanité aujourd'hui par les Nations Unies. Et qu'en fait, les gens ne viennent qu'après. On voit Tillabéri ce qui s'est passé. Et de plus en plus aussi, ça se multiplie. Ce qui veut dire que autant les systèmes... je veux dire, on peut réfléchir et se poser des questions sur les systèmes d'alerte que sur l'absence de réponse.
L'absence de réponse.
Alors, et l'absence de réponse appropriée.
C'est ça. Alors, justement, Aloutine...
Et maintenant, toute la zone du Liptako-Gourma, ça veut dire la frontière entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso... Les choses se passent et maintenant même les gens essayent de faire un trou pour aller. On a vu ce qui s'est passé récemment quand même au Bénin. Tout ça, ça montre qu'il n'y a pas une réponse régionale, coordonnée, pensée. Une stratégie régionale, c'est ça qu'il faut aujourd'hui. Sinon, les gens vont être sur la côte.
Pourtant, en 2011-2012, hein, quand il y a eu l'occupation du nord du Mali par des groupes armés non étatiques, dont des groupes djihadistes, tout le monde en appelait à la CEDEAO, à la mutualisation des moyens. Finalement, c'est resté au niveau du discours.
Écoutez, c'est pas resté au niveau du discours. Ça veut dire qu'il faut prendre acte aussi des faiblesses de la réponse de la CEDEAO. Si la CEDEAO a été effectivement au niveau de ses responsabilités, avait les moyens de le faire, peut-être qu'il n'y aurait pas G5 Afrique, il n'y aurait pas aussi
la MINUSMA, Barkhane.
Donc aujourd'hui, le grand problème que nous avons en Afrique, c'est la sous-traitance de notre politique sécuritaire. Et la politique sécuritaire, ça ne se sous-traite pas. Les gens qui viennent aussi, ils viennent nous aider, c'est une très bonne chose. Mais ils viennent parce qu'effectivement, ça dépend de leur propre sécurité à eux. Ça dépend également des intérêts qu'ils ont, qui peuvent être des intérêts géostratégiques. Je pense que c'est une urgence aujourd'hui pour l'Afrique de repenser les politiques sécuritaires. Cette dépendance sécuritaire, cette absence de souveraineté sécuritaire, je pense qu'aujourd'hui, c'est la plus grande des vulnérabilités de la région et du continent.
Pourtant, on assiste à un empilement de dispositifs militaires. Hein, les armées nationales, la MINUSMA au Mali, vous l'avez dit, la force française Barkhane pour l'ensemble du Sahel, la force G5 Sahel qui peine à remplir ses missions. Pourquoi, malgré cet empilement de dispositifs militaires, les groupes terroristes ne cessent de prospérer et de s'étendre ?
Écoutez, c'est un général français qui se pose la question aujourd'hui. Et quand ça arrive à ce niveau, on est extrêmement inquiet. C'est-à-dire qu'en réalité, nous avons, comme j'ai dit, un cocktail de forces. C'est les forces, je veux dire, étatiques, comment dirais-je, supra-étatiques, si on veut. On a les Nations Unies, on a Barkhane, on a FAMA, on a le G5, sans compter maintenant les formations que font l'Union européenne et également d'autres. Et en même temps aussi, il ne faut pas oublier le cocktail des forces, ça veut dire les djihadistes qui sont là, qui sont assez nombreux ces groupes. Mais en même temps, avec eux, il y a les milices, par exemple comme les milices Dogon, les milices Peul qui commencent à germer. Et ce à quoi on assiste, c'est une dégradation continue de la situation sécuritaire. C'est une dégradation continue de la situation humanitaire.
Mais est-ce que les réponses
c'est une dégradation continue aussi de la situation des droits humains.
La vraie question, au fond, Aloutine, c'est que voilà, est-ce que toute cette... Tous ces dispositifs militaires qui sont mis en place sont adaptés. Est-ce que cette réponse militaire est adaptée à la situation ? Parce que, vous l'avez dit vous-même à l'instant, le phénomène terroriste, ce qu'on appelle terroriste, est devenu protéiforme. Hein ? Combinaison d'attaques djihadistes, banditisme organisé, affrontements communautaires. Comment les États peuvent-ils faire face à ce qui devient, je dirais, une menace multiforme ?
Écoutez, aujourd'hui, il faut prendre acte, quand même, vraiment, de l'échec des réponses actuelles. Les réponses actuelles, franchement, n'ont pas abouti au résultat escompté, recherché.
Oui.
De mon point de vue, donc, il faut dire qu'il n'y a pas que la question, je veux dire, les moyens militaires. Il n'y a pas que les moyens militaires pour arriver effectivement à cette situation. Récemment, vous avez vu, c'est le Burkina Faso, son ministre des Affaires étrangères, qui demande quand même la mise en place d'une coalition internationale contre le terrorisme au Sahel. Ça veut dire qu'on est en train de chercher d'autres alternatives. Mais il me semble que c'est aux chefs d'État africains eux-mêmes. Et également les experts africains, les universitaires, les organisations de droits de l'homme, également les forces de sécurité et de défense, ces gens, de repenser la stratégie et de dire, ben, écoutez, voilà ce qu'on pense qui peut permettre effectivement d'arriver à une réussite. Mais pour le moment, franchement, force est de constater aujourd'hui que il n'y a pas encore une réponse adapté. Il n'y a pas une réponse régionale. Si, sans réponse régionale, je pense que petit à petit, les gens vont aller occuper et avancer et effectivement, avec les coalitions qu'ils font avec, comme on dit, la criminalité transfrontalière, internationale, on ne sait pas ce qui va arriver. Jamais la sous-région n'a été aussi vulnérable et jamais les réponses qui ont été données n'ont été aussi inappropriées. C'est extrêmement préoccupant et ça demande une réflexion de la part pratiquement de tous les segments de la société aujourd'hui, mais ça demande l'urgence pour les chefs d'État et de gouvernement de la sous-région de se réunir très rapidement, de réunir les experts très rapidement et de trouver quand même une réponse. Mais en même temps, c'est avec ça qu'on peut aller au niveau international pour dire, voilà ce que nous pouvons qui arrive, voilà les besoins dont voilà ce dont on a besoin. Sinon, on est en train aujourd'hui de tâtonner et la situation, les gens là, ils avancent, hein.
Ils avancent
et c'est préoccupant et avec une audace et des moyens vraiment qui sont surprenants. Hein.
Un exemple, Aloutine, arrêtons-nous un instant sur la MINUSMA, la force onusienne déployée au Mali. Est-ce que cette force est adaptée à ce qui est quand même une guerre? Est-ce qu'on peut répondre à une guerre avec une mission dite de maintien de la paix? Puisqu'il n'y a pas de paix.
La question se pose aujourd'hui. Parce que c'est la première fois, hein, parce que d'habitude, ce sont des guerres conventionnelles où vous allez faire une mission de la paix. Bon, les règles sont très claires sur le plan international. Les acteurs aussi savent à quoi s'en tenir. Et on y va. Mais tout de même, quand vous avez des menaces aussi diffuses, quand vous avez affaire à une guerre asymétrique, quand vous ne reconnaissez même pas, des fois, vous voyez ces gens-là, ils prennent les véhicules, ils mettent les marques MINUSMA, ils prennent les tenues militaires. Quand vous avez affaire à ces gens que vous ne pouvez pas reconnaître, que vous ne pouvez pas repérer, qui sont à l'intérieur du pays, ça, je veux dire qu'ils sont comme tout le monde, c'est ça qui rend la chose extrêmement difficile. En dépit, bien sûr, de tout le matériel que les gens ont, sur les matériels électroniques, comment dirais-je, les matériels pour faire du renseignement, en dépit de tout ça, ce qu'on constate, c'est qu'en réalité, le problème, c'est que c'est inadapté, il faut quand même le dire. Et aujourd'hui, c'est un débat à l'intérieur, au niveau des Nations Unies. C'est un débat que moi j'ai assisté effectivement à ce débat à Dakar, au forum de Dakar, sur la sécurité, où ce sont les chefs d'État eux-mêmes, pour ne pas les citer, il y a Macky Sall, il y a le président également, Ibeka, qui avait dit, mais maintenant, il faut effectivement attaquer et puis mener une guerre contre le terrorisme. Et on a entendu le patron de la MINUSMA dire, écoutez, c'est pas notre rôle, c'est pas notre mandat de lutter contre le terrorisme, c'est Barkhane. Et c'est les autres armées qui sont là. Mais maintenant, ça, c'est une question, c'est une réflexion. Et je pense qu'il faut la mûrir et voir effectivement à quoi ça peut aboutir. Mais pour le moment, la question se pose sur le plan régional, sur le plan international. Elle n'est pas encore tranchée.
Aboubacar Takou, je me tourne vers vous. Vous êtes à Cotonou, directeur de la publication du quotidien Le Bénin Libéré. Alors, on voit des attentats et des attaques sont devenues récurrents au Mali et au Burkina Faso. Il y a également le phénomène Boko Haram au Nigeria. La Côte d'Ivoire qui a été frappée il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, à Grand Bassam. Et désormais, le Togo et le Bénin qui seraient dans le viseur des groupes djihadistes terroristes. Alors, on se souvient, Aboubacar, que en 2012, au Mali, les groupes qui avaient occupé le nord du Mali avaient pour projet d'étendre leur action à l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'on peut dire désormais qu'ils sont en train de déployer cet agenda malgré tous ces dispositifs sécuritaires déployés depuis plusieurs années?
Bon, ils sont en train de le faire parce que les solutions apportées ne sont pas idoines. La question des terroristes se retrouve à un seul niveau. Ces terroristes n'évoluent pas à main nue, évoluent avec des moyens colossaux qu'ils prennent pour maîtriser les forces constituées en face. Qui finance ces terroristes? Par quels moyens ont-ils ces armes lourdes? C'est la question qu'il faut se poser. Il faut que nos universitaires, en symbiose avec les grandes nations, à savoir les puissances étrangères, s'asseyent pour voir la question du cheminement des armes sur le territoire africain, en l'occurrence vers le Sahel. À partir du moment où il y aura une politique bien déterminée pour limiter la circulation de ces armes, l'approvisionnement de ces djihadistes, je crois qu'on pourrait peut-être espérer réguler cette situation. Hey. Mais tant qu'il n'y aura pas une répression effective sur l'approvisionnement de ces djihadistes en armes, eh bien, on va beau vouloir les contrer, mais on n'y pourra rien parce que ils sont, ces forces-là sont partout et la multiplicité des forces étatiques ne peut les contrer. Il faut poser le problème autrement, chercher à serrer le bouchon au niveau de l'approvisionnement, eh bien, on n'aurait plus de djihadistes. Quoi, la question doit être posée sous cette forme-là.
Il y a aussi la question de la fragilité des États, parce que on a affaire aussi à des États où il y a de fortes tensions politiques. On parle de questions de bonne ou de mauvaise gouvernance en même temps qu'on lutte contre le terrorisme. Est-ce qu'on peut lutter efficacement, Boubacar, contre le terrorisme quand les États sont contestés de l'intérieur pour l'ingestion de la chose publique, par exemple?
D'abord, même dans un État démocratique où le pouvoir n'est pas contesté, nous n'avons pas en Afrique des États économiquement solide, viable, pour envisager une réplique adéquate contre le terrorisme. Non, nous n'avons pas ces moyens. Les États africains peinent déjà à nourrir leur population, peinent déjà à assurer le minimum de sécurité qui leur incombe. Et face à une menace terroriste, djihadiste, je crois que ces États n'ont pas ces moyens. Donc, il ne faut pas poser le problème en termes de difficultés politiques à l'intérieur d'un État. Non, il faut, comme je l'ai dit, poser le problème en termes de l'approvisionnement de ces milices en armes. Si les puissances étrangères sont décidées à réguler la circulation des armes, parce que quand on prend l'affaire Boko Haram, les armes qu'elles utilisent aujourd'hui proviennent d'où? C'est la question. Mais personne, aucun universitaire, encore moins des politiques, ne pense à poser le problème sur cette forme-là, parce qu'on a peur de l'étranger.
Alors pourquoi on ne la pose pas, cette question?
Et personne n'a peur parce que, et là où je suis étant journaliste, juste en posant cette question, je mets à dos, que je le veuille, et la France, dans une certaine mesure. Parce que la dernière fois, par rapport aux informations reçues, des armes retrouvées sur les membres de la secte Boko Haram étaient de marque française. Et on sait combien la France est régulière, elle est déterminée pour organiser...
L'Allemagne aussi est un grand pays pourvoyeur d'armes, vendeur d'armes. Il n'y a pas que...
Oui, dans le pays, la vente des
tous
armes...
Ces pays, oui. Au fond, vous voulez dire que ces groupes armés non étatiques s'approvisionnent en armes aux mêmes sources que les États?
Malheureusement. Et ces groupes armés, je crains même qu'on leur donne ces armes-là. Parce qu'elles n'ont pas accès aux banques classiques pour assurer un transfert d'argent régulier, alors qu'il y a tous les instruments pour bloquer ces gens de trafic.
Aboubacar Takoum, on va continuer d'en parler, on va devoir marquer une pause. C'est une pause qui s'impose à nous à cette étape de l'émission. On reviendra juste ensuite pour reprendre le débat sur cette crise sécuritaire dans le Sahel, crise protéiforme désormais. On va vous retrouver dans quelques instants, Aboubacar Takoum, et nous retrouvons bien sûr aussi notre grand témoin Alioune Tine, qui est dans le studio BBC Afrique à Dakar. A tout de suite.
Le débat Africa Radio BBC Afrique, présenté par Francis Laloupo. Le débat.
avec notre grand témoin invité dans cette édition dans les studios du BBC Afrique à Dakar, Aliou Ntine, expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits humains au Mali. Notre confrère invité dans cette édition au téléphone depuis Cotonou, Aboubacar Takou, directeur de la publication du quotidien Le Béninois Libéré. Aliou Ntine, vous voulez une réflexion sur ce que disait mon confrère il y a quelques instants sur les sources d'approvisionnement d'armes pour ces groupes armés non étatiques?
Oui, parce que, bon, écoutez, les armes, en 2012, avec la crise libyenne, beaucoup sont venus de la Libye, ça, on le sait déjà. Oui, et puis ensuite, vous savez, ils attaquent les camps militaires, ils prennent des armes, ça s'est passé aussi bien au Nigeria, au Mali qu'ailleurs. Mais il me semble effectivement que la question que pose notre ami, c'est une vraie question. La question de la circulation des armes que nous avons commencé à poser d'ailleurs ici, quand nous on était à la radio dans les années 98-2000, surtout avec la guerre qu'il y avait au Libéria et en Sierra Leone. Mais écoutez, aujourd'hui c'est autre chose, hein. Là, ça a pris une ampleur extraordinaire. De mon point de vue, cette question, surtout les armes, on sait d'où qu'elles viennent, hein. C'est les armes qui viennent de presque tous les pays occidentaux, de la Chine, de la Roumanie, de la France. Donc ça, c'est une bonne et une grande question.
C'est ça.
Maintenant, je pense que aussi la malgouvernance.
Je voulais votre réflexion justement sur la malgouvernance, parce que on parle beaucoup de, alors, point de corruption, de mauvaise gestion ou encore des tensions politiques. Est-ce que tout ça ne constitue pas à affaiblir les États et donc à affaisser en quelque sorte la capacité des États à lutter contre ces fléaux?
Mais écoutez, c'est les alliés. C'est les alliés objectifs. La corruption, la malgouvernance, ce sont les alliés objectif des groupes djihadistes et même les crises politiques. Il faut savoir qu'au Mali, c'était à partir d'une crise politique. Même au Burkina Faso, c'est à partir d'une crise politique. Comment les crises politiques affaiblissent les États? Je pense qu'il faut l'étudier. C'est vrai, parce que les gens qui restent pendant très longtemps, il n'y a pas ce qui se passe, si bien que même au Bénin, c'est peut-être prématuré de le poser, mais quand même, on doit froncer les sourcils. À partir de cette crise politique, on a vu comment cette incursion a eu lieu. Donc, il faut faire extrêmement attention aux crises politiques, parce que ce sont des failles.
C'est ça.
Chaque fois, effectivement, que les sociétés sont divisées sur le plan politique et sur d'autres plans, d'ailleurs, ils exploitent des divisions interethniques. Regardez tout ce qui a exacerbé ce qu'on appelle aujourd'hui les guerres interethniques, que ce soit au Mali, au Niger ou au Burkina Faso. C'est les djihadistes qui les exacerbent. Parce que la situation de la gouvernance est une des sources fondamentales, je pense aussi des crises et des fragilités des États que nous vivons. Donc, si jamais on ne change pas ce qui se passe en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, ça veut dire ces présidentialismes qui sont absolutistes, le fait aussi de vouloir tout simplement oblitérer tous les autres pouvoirs, les assujettir pour être un seul homme qui gouverne. Je pense que ça, là, ça fragilise les États. Si on ne procède pas à des réformes, et des réformes vraiment fortes, à stabiliser les acquis démocratiques, les acquis en état de droit, en matière de droits humains, je pense qu'on va être encore beaucoup plus fragile. Parce que l'Afrique n'a jamais besoin autant d'unité que maintenant, face surtout à ces fléaux, face à ces agressions. Et quand on regarde auxquelles on n'est pas préparé, les États ne sont pas préparés. Oui. Les États sont tout le temps surpris par ce qui arrive. Et ça enfonce. Et jusqu'ici, effectivement, nous n'avons pas encore les réponses les plus appropriées. Nous avons besoin d'unité face effectivement à ces nouvelles menaces, ces menaces protéiformes, comme vous dites, pour y arriver. Et on a besoin également de nous appuyer sur nos valeurs, parce que très souvent, on est pris en étau entre les valeurs occidentales, les valeurs orientales qui viennent d'ailleurs, et qui exacerbent également les problèmes complexes que nous avons nous-mêmes. Donc les Africains ont besoin de se recentrer.
Aliou Ntine, vous êtes expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits humains au Mali. Parlons justement du cas du Mali un instant. Comment en est-on arrivé à cette situation où on est en train de s'habituer au fil des années au fait que le pouvoir central ne parvient toujours pas à restaurer son autorité sur l'ensemble du territoire? Est-ce qu'aujourd'hui, le Mali est encore un État pleinement souverain?
Le cas du Mali, comme le cas du Niger et beaucoup de pays africains, c'est des pays énormes. C'est des pays, effectivement, où les États.
Le cas du Mali est particulier, parce qu'il y a le cas
totalement.
Il y a Kidal, par exemple, je veux dire, qui reste une sorte d'enclave comme ça, je veux dire, pas autonome, en tout cas, je veux dire, préservée, on ne sait au nom de quelle géopolitique. Et puis, voilà, il y a le centre du Mali aujourd'hui qui commence à échapper aussi à l'autorité de l'État, puisque d'ailleurs, les habitants de cette région du centre accusent régulièrement l'État, d'être absent. D'être absent sur ce territoire.
Justement, c'est la capacité pour l'État d'être présent partout.
Oui.
L'État n'a pas cette capacité. Sur pratiquement 2/3 du pays, c'est énorme.
Oui.
Donc, ça fragilise l'État. Mais en même temps aussi, il faut bien le reconnaître, hein, que les Africains doivent quand même former des armées qui soient professionnelles, qui soient fortes. Et je pense qu'avec tout ce qui se passe, on doit se poser des questions. Sur effectivement les politiques sécuritaires des pays africains de façon globale. Mais ce que tu poses comme question, c'est une des questions fondamentales. La présence de l'État, la présence de l'administration partout. Si à Kidal au nord, on a connu ce qu'on a connu, si effectivement au centre, on a connu ce qu'on a connu aussi, c'est parce qu'effectivement l'État n'était pas là, l'administration n'était pas là. Et on est obligé souvent de sous-traiter aussi la sécurité avec les milices. Donc tout ça là, ce sont des problèmes aujourd'hui sur lesquels il faut se pencher, il faut parler, sans compter aussi la crise, elle n'était pas seulement sécuritaire au Mali, elle était politique. Au moins, aujourd'hui, nous avons eu peut-être une unité d'une bonne partie de la classe politique pour aller gouverner ensemble, faire face à ces défis. Elle était sociale. On a vu quand même beaucoup de grèves. Grève des magistrats pendant plus d'un mois. Grève, effectivement, de l'éducation. Maintenant, on est en train de les régler. Donc, il y a plusieurs crises en même temps. Il faudrait effectivement régler toute cette crise pour que les gens soient unis, réfléchissent ensemble et également trouvent les moyens ensemble. C'est ça le problème. La réflexion, c'est pas de dire tout simplement nous sommes isolés, nous allons régler en tant qu'État. Non. En tant qu'État, en tant qu'opposition, en tant que société civile, en tant que citoyen, toutes les organisations, les femmes et autres, je pense que il faut prendre acte du fait des limites de l'utilisation exclusive des armes. Donc, utiliser également les citoyens, leurs capacités, leurs compétences, y compris pour régler la question, surtout des conflits intercommunautaires, c'est fondamental. Parce que quand même, les gens, ils ciblent pour diviser. Ils savent très bien ce qu'ils font. Donc, plus les gens sont unis contre ces fléaux, mieux c'est. C'est pour ça, effectivement, qu'il faut bien réfléchir aujourd'hui sur les faiblesses de nos institutions, sur les faiblesses de nos États. Anticiper pour les renforcer, parce que c'est cette capacité d'anticipation qu'on n'a pas en Afrique. Et je pense que depuis, vous savez, le Bénin, parce qu'on va revenir
là-dessus. On va y arriver au Bénin tout à l'heure, dans la deuxième partie de l'émission. Vous écoutez, vous êtes à BBC Afrique, Africa Radio en duplex à Dakar et Paris. Je vais me tourner vers Cotonou, tiens, Aboubakar Takou, vous êtes avec nous. Je voulais votre réflexion sur ce propos du ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Alpha Barry, qui s'exprimait au nom du G5 cette semaine, devant le Conseil de sécurité de l'ONU, qui demandait à l'ONU la création d'une coalition internationale pour lutter contre le terrorisme et la criminalité au Sahel. Et selon Alpha Barry, je le cite, « cette lutte est une responsabilité collective et ces fléaux doivent être traités avec la même détermination que celle qui a prévalu en Irak et en Afghanistan ». Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui ? Est-ce que ce qui se passe dans le Sahel relève désormais de la responsabilité internationale, voire mondiale ?
On ne dira pas, on va pas se poser la question de savoir si ça relève de la responsabilité, d'une responsabilité mondiale. Non, c'est déjà le fait. L'appel du ministre des Affaires étrangères est un peu plus clair. Pourquoi ? Parce que quand on prend par exemple le cas du Kidal au Mali, où il dit qu'à Kidal, c'est une région qui est riche en or. Kidal aujourd'hui, on soupçonne quand même une nation d'être en train de prendre l'or qui est à Kidal. Je me demande parfois si nos universitaires sont réellement libres de penser. Car penser, c'est d'identifier la cause du mal. Est-ce qu'une puissance n'a pas intérêt à ce que le Mali se retrouve dans cette situation pour que Kidal.
Mais quand vous dites une puissance, vous pensez à quelle puissance? Vous pensez à la France, dites-le.
Je n'ose pas le dire. Ah, il y a un appel à la réflexion de DeRozan.
Vous ne le dites pas, mais on l'entend.
Oui, qu'ils sont plus équipés mentalement pour connaître ces gens de sujets, pour nous donner des pistes de réflexion. Je pense qu'au nombre de pistes de réflexion à dégager, il faut se demander qui a intérêt à qui est assez de bouleversement dans cette partie de l'Afrique. Or, on sait pertinemment que les États africains n'ont pas ces moyens de contrôler l'étendue de leur territoire.
C'est ça.
Et quand une zone est assez riche en minerais, eh bien, il faut que les puissances étrangères veuillent bien que cette zone-là soit en sécurité, et ça se fera. Donc l'appel lancé par le ministre des Affaires étrangères, on ne peut plus d'appoint. Je pense que les Nations Unies vont prendre cette affaire au sérieux et trouver la solution adéquate au problème qui mine aujourd'hui l'Afrique et qui entache la stabilité dans les pays.
Merci Aboubacar Takou. Aloutine, rapidement, on va conclure bientôt sur ce sujet. Une coalition internationale pour le Sahel, comme celle qui s'est déployée en Irak et en Afghanistan, ce serait une réponse appropriée?
Je pense quand même, ça veut dire tout simplement qu'il y a un aveu d'impuissance et un aveu d'échec de l'existant.
C'est ça.
On essaye de trouver une alternative, moi je dis si, comme alternative, pourquoi pas? Mais il faut bien la penser. Parce que déjà, je veux dire que, bon, au Mali, en tout cas, toute la communauté internationale est là. Bon, maintenant, je pense que c'est pour l'étendre au niveau du Burkina, parce qu'au Burkina, le feu est en train d'avancer très rapidement.
C'est ça.
Et de jour en jour. Donc, je comprends très bien les préoccupations du ministre. Et je dis, effectivement, c'est une alternative, je dirais, pourquoi pas. Mais en tout cas, ça veut dire... tout simplement l'ampleur du problème, parce que quand on
Aloutine, il faut dire qu'aujourd'hui il semble quand même que le Sahel est devenu le premier sanctuaire du terrorisme sur la planète, parce qu'on ne compte plus, ce sont des dizaines de groupes dits djihadistes qui sèment dans la région, des dizaines, y compris les succursales de Al-Qaïda, de l'État islamique. C'est aujourd'hui, c'est en train de devenir le premier sanctuaire quand même du terrorisme international.
Non mais écoutez, il y a trois basculements,
et autres formes de criminalité,
comme disait mon ami, il y a un basculement géopolitique pour des raisons effectivement qu'évoque également Aboubacar, sur lesquelles je suis d'accord. Parce que plus effectivement on a de ressources, plus effectivement on suscite de convoitises, de toutes parts. Et ça, effectivement, les ressources, il y en a. Et il y a eu des études sur ça qui ont été faites par les Maliens. Moi, je pense que j'ai un bouquin là-dessus, où les gens examinent quand même toutes les potentialités en matière de ressources minérales, avec le pétrole, avec l'uranium, l'or, comme vous dites. Il y a pas mal de ressources quand même là-bas. Et il y a eu un basculement aussi, parce que la route de la drogue, ça ne passe plus de l'Amérique vers l'Europe.
C'est ça.
Ça passe aujourd'hui aussi par l'Afrique et le Sahara. Et également le basculement sécuritaire que vous évoquez. Donc, ces trois basculements font aujourd'hui que, aujourd'hui, sur le plan géopolitique, on peut comprendre totalement ce que, effectivement, le ministre des Affaires étrangères a soulevé comme alternative. Maintenant, il faut la travailler. Et il faut effectivement que les Africains y travaillent ensemble. Il ne faut pas que ça soit porté par un pays, mais que ça soit porté par la région, soit porté par l'Union africaine. Et c'est ça qui manque aussi, une réflexion globale et une, comme on dit, une stratégie globale, une vision commune des réponses.
Merci Aloutine, merci beaucoup. On va passer au deuxième sujet de cette édition tout de suite.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
En duplex à Dakar et Paris, notre grand témoin invité, Aloutine, expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits humains au Mali, et notre confrère invité dans cette édition depuis Cotonou. Au téléphone, Aboubacar Takou, directeur de la publication du quotidien Le Béninois Libéré. On va parler du Bénin justement. Les causes et conséquences de ce qu'on pourrait qualifier désormais de rupture démocratique. C'était jeudi dernier, cérémonie à Porto Novo, la capitale, de l'installation des nouveaux députés de la 8e législature au Bénin, issus des... Cette députée issue des élections législatives contestées du 28 avril dernier, où seuls deux partis de la mouvance présidentielle étaient proposés au choix des électeurs, tous les partis de l'opposition ayant été exclus de la compétition. La cérémonie s'est déroulée sous haute protection ou surveillance, avec un déploiement impressionnant de contingents militaires et policiers qui contrastaient avec l'atmosphère traditionnellement paisible de la ville de Porto Novo. Quels seront donc les lendemains de cette assemblée dans un pays en proie à la plus grave crise politique depuis l'instauration de son système démocratique en 1990? On va commencer avec vous, Aboubacar Takou, évidemment. Quelle est l'ambiance rapidement, ambiance générale, hein, au lendemain de cette cérémonie, puisque je précise que nous enregistrons cette émission le vendredi.
Merci, cher confrère. L'ambiance a étonné tout le monde. Ce fut une ambiance de paix. Les tensions redoutées n'ont pas eu lieu. Et la cérémonie s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Il faut avouer que...
Avec un énorme contingent quand même, avec un déploiement de forces de l'ordre absolument impressionnant.
Il le fallait, parce que quand on se réfère aux incidents des 1er et 2 mai dernier, à Cadieron, précisément, dans le nom du l'ancien chef de l'État, oui. Eh bien, il faut que l'État s'en prenne ses dispositions afin de sécuriser aussi bien les députés qui sont appelés à être installés et les populations de la ville de Porto-Novo et plus largement et Cotonou et tout le Bénin en général. Donc, ces dispositions ont été prises à bon escient et la cérémonie s'est déroulée. Très bien.
Aloutine, alors voilà, des législatives sans opposition, deux partis de la mouvance présidentielle désormais à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire une assemblée monocolore. Quel regard vous portez sur cette situation en cours au Bénin? Est-ce que vous êtes au moins surpris parce qu'il ressemble à un changement de système?
Nous sommes extrêmement surpris et extrêmement préoccupés. Le Bénin, c'est un grand petit pays. C'est un grand petit pays par son histoire qu'on connaît, par sa culture et par son influence pratiquement dans le monde avec le problème du vaudou, par ses intellectuels. On appelle le Bénin le quartier latin de l'Afrique. Et le Bénin aussi a inventé la conférence nationale et les transitions démocratiques, comment dirais-je, en Afrique. Malheureusement, on n'en a pas fait le l'évaluation.
C'est ça.
Et il y a eu des transformations. Il y a eu également aujourd'hui sur le plan, il faut bien le dire, hein, démocratique, que ce soit au Bénin ou ailleurs, une certaine forme, je dis, de corruption, pour parler comme mon ami Gilles Yabi, d'une démocratie corrompue. Parce qu'aujourd'hui, ça aboutit à ce qu'on a vu, des présidentialismes absolutistes, franchement, qui font aujourd'hui, on veut être le maître absolu de l'État. Ce qui s'est passé, par exemple, au Bénin, avec ce qu'on a appelé les certificats de conformité.
C'est ça.
C'est un peu ce qu'on a vu aussi ici.
Avec les parrainages.
Au Sénégal, avec le parrainage. Donc, tout ça, c'est inquiétant. Ça veut dire la dégradation de la situation démocratique. Nous avons de plus en plus affaire à des sortes de démocratures, comme les gens le disent. Ça veut dire une espèce, comment dirais-je, d'hybridité entre démocratie et dictature. Et aujourd'hui, c'est en train, effectivement, de détruire et d'affaiblir
pourtant,
les États.
Pourtant, on disait il y a 30 ans, enfin un peu moins de 30 ans, que les acquis démocratiques étaient irréversibles. Comment vous qualifierez aujourd'hui ce qui se passe au Bénin? Est-ce qu'on peut parler de rupture démocratique? C'est un retour au parti unique? Une restauration autocratique?
C'est une restauration du parti unique, plus ou moins. Parce que ce qui se passe au Bénin, c'est inqualifiable. C'est pour cela, je pense, franchement, je ne sais pas ce qui va se passer, mais cette Assemblée nationale qui ne réunit même pas le tiers, vraiment des voix des électeurs.
Il y a eu un fort taux d'abstention, oui,
Donc, la question de la légitimité de cette Assemblée se pose. Les moyens, ça veut dire la brutalité et la violence avec laquelle on est arrivé à cette situation, avec des morts, avec la répression, avec vraiment le fait de museler la presse, y compris d'arrêter Internet. Je pense que tout cela est extrêmement inquiétant pour un pays qui était un phare en matière de démocratie. Très sincèrement, ce que nous recommandons très rapidement, c'est vraiment un dialogue national global qui doit être facilité par la CEDEAO, qui doit être facilité par l'Union africaine, qui doit être facilité par l'UNOAS, parce qu'effectivement, toutes ces institutions sont intervenues, nous le savons, pour faire en sorte, effectivement...
Elles sont toutes intervenues, oui. Pour réclamer des élections inclusives.
Pour réclamer des inclusions inclusives. Elles n'ont pas été écoutées. Et aujourd'hui, le danger avec cette division, avec cette faille, c'est ce signal, avec ces gens qui ont été enlevés. Mmh. Avec effectivement ce guide qui a été tué, c'est une véritable tragédie. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment faire en sorte que le président de la République revienne sur cette décision.
Oui.
Cette décision, c'est une décision suicidaire pour la démocratie, suicidaire pour les institutions béninoises et suicidaire également, je pense, du côté de la sous-région sur la question de la sécurité et autres. Il faudrait effectivement que les gens retournent. Je ne comprends pas, d'ailleurs, les États interviennent, mais ce qui manque aujourd'hui, c'est la voix des organisations de la société civile ouest-africaine. On ne les a pas suffisamment entendues. C'est comme si, aujourd'hui, on a des cloisons étanches. Chacun s'occupe des problèmes de son pays, on ne s'occupe pas des problèmes du reste. Il est évident qu'aujourd'hui, on a besoin d'une coalition des organisations de la société civile. C'est bien que des intellectuels fassent une pétition. J'ai vu cette pétition, je l'ai saluée, mais il faut que les organisations de la société civile ouest-africaine et africaine se mobilisent pour le Bénin, parce que le Bénin, quand même, ça a permis à beaucoup de pays africains de venir apprendre d'abord ce qu'est une transition démocratique et d'avancer, et de repenser nos systèmes qui sont en train aujourd'hui de se dégrader, de se corrompre et de se transformer, malheureusement. C'est les gens aujourd'hui, une fois qu'ils sont élus, ils considèrent les partis un peu comme l'État, c'est comme un gâteau. On se distribue, on se partage les institutions, on se partage aussi les ressources. Et puis ensuite, la guerre politique, il n'y a plus d'idéologie. Voilà, on ne sait pas qui est qui. La guerre, c'est pousse-toi que je m'y mette. C'est pour ça qu'on a eu des banquiers au Bénin. Il faut bien l'analyser. Hein. Et maintenant, on a eu le patron des patrons, une espèce de Trump. Et demain, qu'est-ce qu'on va avoir? On ne sait même pas. Tout ça, c'est parce qu'effectivement, il n'y a plus de principe, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de sens dans le champ politique.
C'est une crise. Je pense que ça aussi, c'est une crise du sens aussi.
C'est une véritable crise du sens dans la sous-région et dans la politique en Afrique, auquel il faut trouver vraiment des solutions de la façon la plus urgente. Je suis d'accord avec Boubacar. Il est temps aujourd'hui aussi que les intellectuels parlent. Mais on avait une intelligentsia qui était prolixe, qui parlait, qui intervenait, qui prenait quand même ses responsabilités. Oui. Aujourd'hui, un peu partout, il n'y a plus d'intellectuels organiques pratiquement. C'est ça aussi qui fait que, quand on regarde l'état de nos universités, l'état de l'enseignement supérieur, vraiment, c'est inquiétant. C'est pratiquement aujourd'hui, j'ai entendu vraiment Akindes, et je suis totalement d'accord avec vraiment l'évaluation.
Francis Akindes, dites-vous, c'est ça.
Exactement, absolument.
Aboubacar Takou, alors, l'opposition conteste toujours les élections législatives et demande... on conteste donc forcément cette nouvelle Assemblée nationale, et tout en demandant l'organisation de nouvelles élections. Est-ce que cette opposition est encore écoutée aujourd'hui par le pouvoir?
Bon, pour être sincère, d'abord, je voudrais d'abord dire que je suis en partie avec le commentaire de M. Aliou, en partie, parce que à un certain niveau, je ne suis pas du tout d'accord, parce qu'aujourd'hui, on ne doit pas parler de rupture démocratique aujourd'hui au Bénin, mais on va parler plutôt de rupture. Rupture pourquoi? Comme l'a dit M. Aliou, le Bénin a beaucoup inventé. Le Bénin a inventé la conférence.
La rupture, il faut dire qu'au Bénin, la rupture, c'est le socle, le slogan de l'actuel régime. Hein?
Oui, mais ce n'est pas une rupture démocratique.
Ah, d'accord.
Pourquoi? Parce que les partis politiques qui n'ont pas pu se mettre à jour pour aller aux élections étaient tous, autant qu'ils sont d'accord avec ce qui a été voté à l'Assemblée. Et Jean-Jacques Rousseau l'a dit, l'obéissance à toutes les lois
conteste. Mais il n'a pas voté à l'Assemblée pour un certificat de conformité, il faut le préciser. Hein.
Si, la
certificat de conformité a été énoncé 3 semaines avant les élections par la Cour constitutionnelle.
Mais la Cour constitutionnelle, qui est garante de la légalité constitutionnelle de notre démocratie, a bien défini cette
le résultat, c'est qu'on est arrivé à l'arrivée de ce processus à ce que ce soit 2 partis de la mouvance présidentielle seulement qui ont été dans cette compétition des législatives. C'est cela qui pose, sur ça que s'appuie la réflexion d'Aloutine.
Ça peut poser un problème d'élégance, mais pas un problème de droit.
Ah oui.
Parce que tout ce qui a été dit et a été vécu n'est que l'aboutissement du processus électoral dans lequel nous sommes lancés par rapport au code électoral.
Alors je vous pose la question autrement, Boubacar Takou. À quoi va ressembler cette Assemblée nationale s'il n'y a plus de débat pluraliste au sein d'une Assemblée?
À l'Assemblée, il y a quand même beaucoup d'intellectuels. Même
débat si pluraliste et contradictoire.
Contradictoire. Bon, et moi, de mon point de vue, j'avoue, je donne caution à cette Assemblée. Pourquoi ? Le Bénin a tout fait déjà dans la politique démocratique qui n'arrange pas l'économie, qui n'arrange pas le développement.
Attendez, ce que vous dites est important parce que ça fait partie aussi du débat politique aujourd'hui, un peu partout, hein, pas seulement en Afrique d'ailleurs. Vous voulez dire qu'il faut moins de démocratie pour que l'économie puisse avancer, c'est ce que vous dites ?
J'avoue, il faut moins de démocratie dans les pays africains pour que l'économie puisse prendre le départ. Parce que, imaginez, M. l'a dit tout à l'heure, qu'on n'a pas pu évaluer toutes les transactions afférentes aux heures de première démocratie, à savoir les conférences nationales que nous avons eues. Si on avait fait le bilan, on allait comprendre que ça nous a pas amené loin. L'Afrique, en l'occurrence le Bénin, est resté un pays sous-développé. Mais ça, il faut que nous avancions avec des réformes économiques qui puissent permettre aux États africains de se développer. Quand on prend le cas du Rwanda, quoi qu'on dise, quoi qu'on peut reprocher aux Rwandais, au président Kagame, il n'y a qu'une réalité que tous les Africains sont unanimes pour reconnaître que ce pays est en plein développement.
On sentait que votre regard tournait vers le Rwanda, Boubacar Takou.
Curieusement, mon regard de point de vue est tourné vers le Rwanda, est tourné vers la Chine, qui n'est pas un des hommes démocratiques, mais qui est une puissance économique. Aujourd'hui, nous avons trop fait dans la politique. Il faut qu'on fasse dans le développement. Pour faire le développement, il faut avoir une assemblée qui va être là à casser les pieds aux réformes et entreprises par le pouvoir d'État. Il faut une assemblée qui soit réellement en harmonie, en phase plus ou moins.
Avec un pouvoir autoritaire, plutôt. C'est ça qu'on entend.
Pas autoritaire.
Oui. C'est la logique.
Pour grand que soient les rois, pour grand que soient les rois, ils sont sur les hommes, ils peuvent se tromper comme les autres hommes.
D'accord.
Un président a besoin réellement d'une opposition, et l'opposition n'est pas censée être uniquement à l'Assemblée nationale.
On a bien entendu votre pensée. Terminez, s'il vous plaît, Bakar.
L'opposition est libre au Bénin. Elle peut opiner à tout moment pour aider le chef de l'État à ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire.
Sans être à l'Assemblée.
Qu'une assemblée soit acquise au chef de l'État, expérimentons ça maintenant, à partir du moment où je dis que ça peut manquer d'élégance, mais de point de vue de droit, ça tient debout.
D'accord.
Tous les partis convoqués n'ont pas pu réunir l'essentiel de ce qu'on leur a demandé pour être à jour.
D'accord.
Si deux partis du pouvoir, parce que le président a eu l'avantage, a eu une avance d'intelligence sur les autres pour coacher bien les siens, et bien ceux qui n'ont pas été à jour, donc ça s'en prend d'ailleurs même.
Merci beaucoup, Boubacar Takou.
Tout ça a été basé,
Il reste 5 minutes d'émission, je voulais qu'Alimoutil réagisse à vos propos. Parce qu'on entend là une thèse.
J'aimerais évidemment bien réagir.
On entend cette thèse de plus en plus aujourd'hui d'ailleurs. Alimoutil, vous avez bien saisi l'exposé d'Aboubacar Takou. Rapidement, en 2 minutes, une réponse.
Écoutez, moi je pense que c'est une totale illusion. Avant, le Bénin était un parti, était une dictature militaire. Et les gens n'arrivaient même pas à payer les salaires. C'est quand il y a eu le pluralisme que le Bénin, Cotonou, tout a changé. C'est pareil pour le Mali, c'est pareil pour la plupart des États. Mais on se trompe avec, Kagame. Kagame, quand même, a hérité d'un pays où il y a eu le génocide. À ma connaissance, il n'y a pas eu de génocide dans les autres pays. Et Kagame a intérêt à ouvrir, à s'ouvrir. Et il essaie de s'ouvrir. Et c'est là-bas même où des ouvertures commencent à se faire. Et d'autre part, quand on prend la question de la gouvernance, mais Kagame est en tête. Mais la corruption est en train de gangréner nos institutions, nos sociétés. On n'a pas réglé cette question. Mais on va avoir pire. Ça veut dire qu'on n'aura ni le développement de l'économie avec cette démocrature. C'est le fait qu'on n'a pas réexaminé les dysfonctionnements et les pathologies de nos démocraties après les transitions. 10 ans après, il fallait faire une évaluation, réfléchir. Moi, j'étais là-bas dans une grande conférence au Bénin sur la démocratie, mais les recommandations n'ont pas été respectées. La corruption continue. Et également, vous aurez la corruption, vous aurez la malgouvernance et vous aurez la dictature. Au finish, vraiment, on perd pour tout.
Merci.
Il faut vraiment réunir les gens, discuter. On ne peut pas faire aujourd'hui faire progresser le Bénin en mettant de côté vraiment les deux tiers des Béninois.
Merci beaucoup. On va écouter tout de suite les messages de nos amis envoyés sur Internet, via Internet. Message recueilli et livré par Didier Ladislas Lando. Tout de suite.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @débat BBC Africa et sur notre page Facebook facebook.com/débat BBC Africa.
Bonjour Francis, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Sahel Albert Sangaré se demande pourquoi la présence des forces étrangères au Mali n'empêche toujours pas les attaques à répétition ainsi que l'expansion des mouvements terroristes dans la sous-région. Mambari de son côté déplore l'inaction de l'Union africaine et s'interroge sur l'utilité de l'organisation. Mamadou Adiba demande à notre invité si les Nations Unies ont pu prendre des mesures après la tuerie des Peuls au Mali. Christian Dirable, lui, s'interroge sur les véritables capacités du G5 Sahel à freiner l'insécurité dans la sous-région. Parlant du Bénin, notre internaute se demande pourquoi l'Union africaine et la CEDEAO n'ont pas réagi à cette rupture démocratique instaurée par le pouvoir talon, malgré les nombreux appels de l'ancien président Yayi Boni. Charles Bazema lui déplore l'installation des députés de la 8e législature, malgré les nombreuses contestations. Merci à Kakou Yannick, Fofana Moussa Kagoro et Mamadou Dian qui nous ont rejoints cette semaine. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com/débat BBC Africa-Africa Radio et sur Twitter à @débat BBC Africa. Et d'ici là, bon week-end à tous.
Bon week-end à vous aussi Didier Ladislas Lando, merci beaucoup. On arrive bientôt à la fin de cette édition à LinkedIn, c'est la tradition. On va vous donner peut-être 40 secondes pour conclure. Une conclusion générale.
Et puis la conclusion générale, c'est en réalité, c'est pour demander aux chefs d'État et de gouvernement de réunir un sommet très rapidement et de penser à une réponse commune, régionale, face effectivement à une menace qui se répand dans la région comme un feu de brousse.
Alors, ce qui concerne le Bénin, il y a beaucoup de
pour le Bénin, vraiment, j'en appelle vraiment à la sagesse du président pour dire effectivement que cette situation brutale et violente, c'est pas la réponse appropriée. Ça va aboutir à une impasse qui va créer beaucoup plus de problèmes que de solutions.
Merci beaucoup Ali Outine, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette édition de débat BBC Afrique, Africa Radio. Ali Outine, expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits humains au Mali. Merci à notre confrère Aboubacar Takou, directeur de la publication du quotidien Le Béninois Libéré, qui était également avec nous, lui, au téléphone depuis Cotonou. L'émission a été réalisée à Dakar par Abdou Diop, régie ou supervision technique depuis Paris par Maxime Salin, chargé de production Didier Ladislas Lando. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs africaradio.com et bbcafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de débat BBC Afrique, Africa Radio. Bon week-end à toutes et à tous à l'écoute de nos radios partenaires. Au revoir.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.